Spin. Spirit. Chic Magazine.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
Obviously, doctor, you've never been a 13-year-old girl.
Teen Spirit. Un podcast de Chic Magazine.
Bonjour et bienvenue dans Teen Spirit, le podcast de Chic Magazine qui remonte le temps jusqu'à notre adolescence. Pour certaines, ce fut un moment merveilleux, l'adolescence. Pour d'autres, un passage plus douloureux. Mais pour toutes les femmes, l'adolescence est un moment de transformation, d'incertitude, de découverte. Un moment où l'on quitte l'enfance tout doucement ou brutalement, sans vraiment savoir où on met les pieds. Devenir femme, qu'est-ce que ça signifie ? Je suis Faustine Kopiewski et c'est l'une des questions que je vais poser aujourd'hui à notre invitée, l'autrice Jack Parker, alias Taous Merakchi. Bonjour Taous.
Bonjour.
Taous Merakchi a utilisé le pseudo Jack Parker dès ses premiers pas dans l'écriture pour le site Mademoiselle, où elle a commencé en tant que rédactrice. Depuis, elle a tenu un blog sur les règles, Passion menstrue, réalisé un podcast sur la mort, le bien nommé Mortel, et publié deux livres, Le grand mystère des règles en 2017 et Lettre à l'ado que j'ai été en 2018, un ouvrage collectif où des personnalités s'adressaient à leur moi adolescent. En cette fin d'année 2019, à 32 ans, elle vient de publier Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne, un guide bienveillant et tout sauf dogmatique pour aborder pas à pas la sorcellerie en mode 2.0. Ça remonte à ton adolescence, Taous, ta fascination pour les sorcières ?
Complètement, mais même avant ça, c'est vraiment de naissance, je pense. Ça s'est effectivement manifesté plus fort à l'adolescence parce que, en plus, c'était l'époque où il y avait Sabrina l'apprentie sorcière, il y avait Charmed, il y avait Buffy à la télé, il y avait tout ce genre de trucs qui rendaient les sorcières modernes et cool. C'était plus le cliché des chapeaux pointus et des nez crochus. Et surtout parce que ma mère a une spiritualité alternative, comme j'appelle ça, parce que je sais pas comment intituler ça autrement. Donc j'ai toujours vu ma mère faire des petits trucs avec des pierres et des médailles et jeter des œufs par-dessus son épaule. Et j'ai jamais trop compris ce qu'elle faisait jusqu'au moment où je m'y suis intéressée moi-même et où j'ai commencé à construire ma propre spiritualité alternative. Donc à l'adolescence, ça s'est manifesté plus qu'à une autre époque parce qu'il y avait ce besoin d'être puissante et de prendre le contrôle et de contrôler ce qui m'arrivait parce que je contrôlais rien du tout. D'un jour à l'autre, je reconnaissais pas mon corps, ni mes odeurs, ni rien. Donc au moins, avec la sorcellerie, je me disais, bon, je peux peut-être avoir un peu de... Mais non, j'étais trop dispersée à l'époque.
Alors dans ta bio, il est écrit effectivement que tu as été élevée avec une femme mystique et un homme fan d'histoires fantastiques. Alors c'est qui sont-ils tes parents ?
Alors ma mère c'est une hippie d'extrême gauche, extrêmement spirituelle, extrêmement optimiste. C'est vraiment le soleil de ma vie. C'est toutes les raisons pour lesquelles je suis positive dans ma vie, c'est grâce à ma mère. C'est elle qui m'a apporté tous les côtés vraiment positifs, qui m'a donné la force de tenir, qui a été mon pilier dans les moments les plus durs. Et qui travaille dans le social depuis toujours, qui a fait un master dans sciences de l'éducation, enfin vraiment très, très cliché de gauche, mais de gauche quoi. Et mon père était l'inverse, c'était un homme très sombre et très destructeur, qui m'a fait beaucoup de mal en voulant me faire du bien. Il pensait que sa façon de m'éduquer était pour mon bien, sauf qu'en fait il vivait sur une autre planète, en dehors du système... Il n'a jamais travaillé de sa vie, il a toujours vécu au crochet des femmes et de la société. Et il voulait faire de moi sa version féminine, sauf que ça ne marche pas trop. Et puis, ce n'était pas ce que je voulais, surtout. Donc, il avait ce côté hyper fantasque, avec un imaginaire très développé. Il me racontait toujours des histoires incroyables. Dès qu'il m'écrivait une lettre, c'était toujours une histoire, c'était un conte qu'il créait avec des personnages fantastiques. Il se créait des alter-égos, et moi aussi. Donc, c'était... mortel, mais l'autre côté, c'est que au quotidien, il était invivable, quoi. C'était vraiment le mythe de Pygmalion. Il voulait me façonner à son image, et moi, j'avais pas très envie, et j'étais terrorisée par mon père. Donc, j'ai vraiment vécu, j'ai fait un grand écart entre ma mère, le soleil, et mon père, les ténèbres. Et pendant très longtemps, j'ai marché sur ce fil sans savoir de quel côté j'allais tomber. Et en fait, je suis tombée de mon côté, parce que c'est ça le plus important, c'est pas de tomber d'un côté ou de l'autre, c'est de se trouver son propre côté. Mais ma mère a vécu dans la peur pendant de nombreuses années en me voyant osciller comme ça, en sachant pas trop si j'allais suivre la voie de mon père ou la sienne. Et elle est très heureuse aujourd'hui que je suive ma propre voie. Mais voilà, j'ai vraiment vécu entre une fée et un sorcier maléfique, si on veut mettre des images fantastiques dessus. Mais c'est des personnages très forts, mes parents. Et du coup, c'était pas évident de se construire.
Et vous viviez tous les trois ?
Non. Heureusement, ils se sont séparés très tôt. Officiellement, physiquement, quand j'avais 6 ans, mais ça faisait longtemps que leur histoire était terminée. Et j'ai vécu donc avec... J'avais l'univers avec mon père d'un côté, l'univers avec ma mère de l'autre, et les deux se mélangeaient jamais. Ils se voyaient pas, ils se parlaient pas, à part quand il y avait une urgence, et encore. Mais c'était mieux comme ça, parce que vraiment, ils étaient pas compatibles du tout, quoi. Ils l'ont été pendant un moment pour tomber amoureux et me faire, parce qu'ils étaient quand même amoureux l'un de l'autre, et ils sont très heureux que je sois née de cette union. Mais pour le reste, c'était pas censé durer très longtemps, quoi.
Ils ont pas eu d'autres enfants ensemble, t'es la seule. Et t'as grandi où ?
J'ai grandi à Paris. J'ai grandi à Paris entre le 12e arrondissement, le 11e et le 19e.
Je me suis un peu promenée. T'es née à Paris ?
Mais je suis née à Paris. Mes parents sont nés à Paris aussi, donc vraiment parisien depuis 2 générations. Ce qui est rare.
C'est rare, ouais, c'est très rare.
Mais c'est hyper frustrant parce que du coup, pendant les vacances, moi je vois tous mes potes qui disent « Oh là là, faut que j'aille à la campagne chez mes parents. » Je dis « Oui, bah ouais, si je veux aller chez ma mère, je vais au but de Chaumont, quoi, super !» Alors que je vois tous mes potes qui vont dans le fin fond du 77 dans des grandes baraques avec des chevaux et des chèvres. Et je me dis, putain, c'est ça que je veux, quoi.
Un souvenir associé à ton enfance, ce serait quoi ? J'ai lu que tu ramassais des poils de lapin et des plumes d'oiseaux dans la nature avec ta mère.
Ouais, ça c'est un souvenir hyper marquant que j'ai avec ma mère. On allait se promener au parc de la Courneuve, qui pour moi était une immense forêt quand j'étais gamine, parce que j'étais en maternelle, donc tout me paraissait immense. Et on dévalait les collines en chantant Colchic dans les prés, main dans la main. Et elle m'avait offert une banane, un sac banane fluo, et c'était mon sac à trésors. Et en fait, à chaque fois qu'on partait en vadrouille dans la nature ou dans la forêt, j'avais pour mission de trouver des trésors. Et elle aussi, elle cherchait des trésors dans son coin. Et donc les trésors, c'était des pommes de pin, des cailloux qui avaient une couleur un peu particulière, des plumes d'oiseaux un peu autre chose que du pigeon, quoi, de préférence. Et toutes ces petites choses qu'on peut trouver dans la forêt quand on ouvre un peu l'œil, quoi. Et ça rendait... le tout déjà ludique, intéressant, puis il y avait un challenge et j'avais vraiment l'impression de ramasser des ingrédients magiques et de découvrir des vrais trésors. Elle avait réussi à monter tout un truc autour en parlant des lutins qui vivaient dans la forêt. Dès qu'il y avait une souche d'arbre, elle me disait « Tu vois, là, par exemple, il y a des fées qui vivent là-dedans. » Comme une ouf. Et j'y croyais à mort. C'était trop bien.
T'as gardé certains de ces objets ?
Ouais.
Le sac banane ?
Non, malheureusement, je l'ai vraiment en tête, je pourrais le recréer de mémoire tellement je m'en souviens. C'était une banane prospère, le pain d'épices. Donc je m'en souviens vraiment très bien. Mon père notamment aussi, il aimait bien ramasser des trucs dans la nature. Et lui aussi, il a gardé des trucs que j'ai récupérés à sa mort, notamment une noix au bruit secret.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une noix qu'il avait ouverte, il avait gardé les deux coquilles de noix. Et dedans, ensemble, on a mis un objet et il a collé les deux parois de la noix pour la reconstituer. Ce qui fait que quand on secoue la noix, ça fait un bruit. Sauf qu'on a tous les deux oublié très rapidement quel était l'objet qui était dedans. Donc c'était la noix au bruit secret. Et on s'amusait à l'agiter en essayant de deviner ce qu'on avait bien pu foutre dedans. Et donc j'ai toujours cette noix, je sais toujours pas ce qu'il y a dedans, je ne l'ouvrirai jamais, je veux pas savoir. Et j'ai passé toute ma vie avec sur sa bibliothèque de temps en temps à évoquer la noix au bruit secret, à la ressortir pour la secouer.
C'est génial, j'adore. Complètement atypique, en fait, ton enfance.
Ouais.
Et assez heureuse, non ? Enfin, tu racontes ça.
L'enfance, ouais.
Ouais.
C'est l'adolescence,
ouais, ça
c'est vraiment
corsé.
Assombri. Mais l'enfance, ma mère a tout fait pour me protéger de tous les trucs nuls de mon entourage. Mon père était encore dans une phase où. Il y avait des moments chiants et nuls avec mon père où il était vraiment hyper dans le contrôle et parfois il a pu être violent avec moi aussi. Donc il y a quelques nuages quand même sur ça. Mais comme j'étais enfant, on jouait beaucoup. Et surtout, j'étais pas encore en train de challenger son autorité, je remettais pas en question ses choix. Il fallait que je me coiffe d'une certaine manière, que je m'habille d'une certaine manière. Et je me dis, bon, c'est mon père, il m'a dit que j'allais faire un palmier sur la tête, je fais un palmier sur la tête. Alors qu'après, en grandissant, je me dis, en fait, les palmiers, ça fait mal aux cheveux, j'en ai marre, je veux plus. Et ça lui a beaucoup déplu parce qu'il fallait absolument que j'aie un palmier sur la tête parce que c'est trop mignon, une petite fille avec un palmier. Vraiment des détails très chiants. Mais comme il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup de féerie et qu'ils prenaient tous les deux un plaisir immense à me construire des mondes imaginaires et à développer mon imagination. Du coup, j'étais hyper protégée par ça. Et à l'école, ça se passait trop bien. Tous les profs m'adoraient. J'étais hyper bonne à l'école. J'adorais lire, j'adorais écrire, j'adorais dessiner. J'avais plein de potes. Je passais mon temps à vivre des aventures folles. Je partais en colonie de vacances et du coup, je vivais des trucs incroyables aussi. Enfin, c'est vraiment une super période, l'enfance. C'était trop bien. Je vivais au quartier, enfin, dans le quartier d'Aligre. J'étais vraiment juste derrière le marché d'Aligre. Et c'était un petit village pour les enfants, ce qui fait qu'on avait, à cette époque-là, on pouvait encore se promener dans la rue sans ses parents. Et c'était un village, quoi. Vraiment, c'était balisé. Tous les commerçants nous connaissaient. Et on a vécu une enfance de film. C'était très Spielberg avec, dans les cul-de-sac, les banlieues, où tu les vois sortir avec leur vélo et tout. Sauf que nous, c'était ça au marché d'Aligre. C'était trop cool.
L'enfance en ville, en fait, c'est cool. Ouais. Ouais.
C'est pour ça que quand les gens disent « Ouais, on peut pas élever des enfants à Paris », ça dépend où, ça dépend comment. Parce que moi, vraiment, j'ai vécu dans une bulle dans ce quartier-là et je l'ai super bien vécu. On avait nos coins de nature, on avait la coulée verte, on avait le square trousseau, on avait notre chemin balisé jusqu'à la piscine municipale. On avait une sacrée liberté. Après, aujourd'hui, je sais pas si c'est aussi facile, mais...
Et alors, effectivement, tu dis que ça s'est corsé à l'adolescence. Alors, j'ai vu une vidéo de toi où tu dis quand même que la première fois que tu as eu vraiment envie de mourir, tu avais 12 ans.
Ouais.
C'est assez violent. Tu peux m'en dire plus ?
C'est le moment où ma vie a complètement basculé. Ma mère et mon père sont entrés en conflit sur des histoires de... Parce qu'ils ne m'avaient pas reconnu. Ils ne voulaient pas que j'aie son nom de famille parce qu'il voulait pas... il avait renié sa famille. Donc, il ne voulait pas que je sois associée à sa famille. Donc, il n'utilisait pas son vrai nom. J'ai appris son vrai nom quand j'avais 12 ans, qui m'a enfin reconnu. Et donc, il y a eu toute une bataille pour qu'il me reconnaisse, parce que ma mère ne voulait plus me laisser... Parce qu'en plus, à chaque fois qu'il me prenait en week-end, c'était pour 2 jours. Et parfois, je disparaissais pendant 4 jours, parce que faire l'école buissonnière, c'était formateur et marrant. Et elle ne savait pas où j'étais, elle ne savait pas quand est-ce que j'allais revenir. Elle s'est dit, mais en fait, s'il y a un problème, qu'ils se font arrêter, qu'il y a un souci, il n'a aucun moyen de prouver que c'est son père. Donc, je vais peut-être demander quand même à ce qu'il la reconnaisse, au moins.
Parce que lui, il t'emmenait, te promener
Ouais, on dormait chez des potes. Je passais énormément de temps dans les bars, ce qui a été intéressant parce que du coup, j'ai assisté à énormément de conversations super intéressantes entre des adultes intello brillants. Mais en même temps, je me faisais un peu chier. C'était l'époque où on pouvait fumer dans les bars, donc j'ai vraiment passé mon enfance dans un nuage de tabac, ce qui n'est pas ouf. Mais voilà, et donc ils sont rentrés en conflit sur ça. Après, elle a commencé à lui dire peut-être qu'on devrait aussi mettre en place des droits de visite et un emploi du temps plus rigide. Et là, ça l'a fait partir en sucette parce que le système, la justice, la police, tout ça, c'était hors de question qu'un juge décide comment il avait le droit de voir sa fille. Et pendant ce temps-là, ma mère s'est mise en couple avec un mec avec qui ça passait pas du tout. C'est-à-dire que devant elle, on essayait de donner le change. Et j'essayais parce que je croyais qu'elle était vraiment heureuse avec lui, donc je voulais pas lui gâcher son bonheur. Et lui, il essayait de lui faire croire que ouais, t'inquiète pas, je te veux toi et ta fille, alors qu'il la voulait qu'elle. Du coup, il y avait plus rien qui allait dans ma vie. Je voyais plus mon père parce qu'ils sont. Et elle a dit tu la verras pas tant que t'auras pas fait les démarches qu'il faut faire. Alors que c'était vraiment pas compliqué. Et lui, il voulait pas. À la maison, je détestais l'homme avec qui elle vivait et il me le rendait bien. Et à l'école, j'ai commencé à me faire harceler, à me faire taper, insulter quand je suis rentrée au collège. Donc vraiment, j'avais aucun endroit où ça pouvait bien aller dans ma vie. Il n'y avait aucun endroit où je me sentais safe et aimée. Je me suis sentie vraiment abandonnée à cette époque-là et terriblement seule. Et donc, je me revois ce jour-là dans la cuisine de cette maison à attraper une machette, une machette coupe-coupe de la jungle, là, qui était accrochée pour décorer. Et je me suis mis la pointe de la lame sur le ventre en me disant « Vas-y, appuie et tout ira mieux après. » Et mes parents, enfin ma mère et mon beau-père, sont rentrés des courses à ce moment-là. Et je me souviens très bien qu'ils parlaient du prix des aubergines et des réductions sur les fruits et légumes. Et j'ai raccroché la machette et je suis retournée m'asseoir dans le canapé. J'ai repris ma BD comme si de rien n'était. J'en ai jamais parlé. Enfin, j'en ai parlé à ma mère des années après, hein, mais sur le moment, j'ai pas... Et j'ai été très surprise par le calme et le calme que j'avais dans ce moment, alors, le moment où j'ai appuyé la lame, mais l'après aussi, où il n'y a pas eu le sursaut de « Oh la merde, putain, faut que je cache tout ». Non, c'était juste « Bon, tant pis, ce sera pour une autre fois ».
Et tu crois que s'ils n'étaient pas rentrés, tu aurais vraiment fait une connerie ?
Non, je ne pense pas. Je pense que je testais mes limites et je voulais ressentir quelque chose, je voulais voir si j'en étais capable, si la solution était là, si j'en avais vraiment envie. Et je pense que je n'en avais pas vraiment envie, je voulais juste, comme beaucoup de gens, pas arrêter de vivre, juste arrêter de souffrir, parce que vivre, c'était souffrir. Et du coup, l'amalgame est facile à faire. Et une fois que j'ai découvert la vie sans souffrance, je me suis dit, en fait, c'est cool, j'ai bien fait de rester. Mais sur le coup, c'était tellement de la souffrance tout le temps que le seul moyen d'en sortir que je voyais, c'était mourir, quoi. Je voyais pas d'autre solution.
T'as jamais réessayé ?
Alors, j'ai réessayé quand j'avais 16 ans, où j'ai essayé de me tailler les veines, mais alors vraiment de façon très nulle, mais très très nulle, avec un bic que j'ai défoncé avec la semelle de ma New Rock, donc les grosses chaussures de goth avec les plaques de métal sur les semelles, là. Donc je l'ai éclaté sous ma New Rock pour sortir la lame, et à l'horizontale évidemment, hein, parce que je voulais vraiment pas y arriver en vrai. Et donc je me suis fait des entailles sur genre, je sais pas, 15 cm de mon poignet, à chaque fois en me disant « Allez, appuie plus fort !» J'y arrivais pas. En mettant Cradle of Filth à fond dans ma chambre alors que ma mère était dans le salon, et je mettais la musique de plus en plus fort en me disant à un moment elle va venir me dire de baisser le son quand même, parce que clairement je voulais juste que ma mère rentre et me voie en détresse et agisse, et c'est ce qui s'est passé. Et quand elle est rentrée dans ma chambre, elle a eu un moment de choc, et puis elle m'a attrapée, elle m'a lavé le poignet, elle l'a bandé et elle m'a prise avec elle. J'ai dormi dans son lit. Elle m'a fait « Tu viens dormir avec moi ». J'ai pleuré dans ses bras et le lendemain, je suis allée me faire dorloter par ma grand-mère. Et après, ça allait mieux parce que j'avais besoin d'attention, j'avais besoin de l'exprimer. Et j'ai été impressionnée par le calme dont elle a fait preuve, parce que je vais bientôt être mère. Et je me suis juste imaginée rentrer dans une pièce et voir le poignet en sang de mon enfant. Mon Dieu. Mais bon, je pense qu'elle a très vite vu qu'il n'y avait rien de grave et qu'elle a elle-même été dépressive, donc elle sait ce que c'est qu'un appel à l'aide, elle sait ce que c'est que ces pulsions-là. Je pense que ça aide beaucoup. Mais elle a très bien réagi et après, j'ai plus jamais réessayé. J'ai eu des comportements destructeurs, mais je pense que j'ai un instinct de survie qui est très fort et qu'en vrai, j'ai toujours voulu vivre et j'ai toujours voulu être heureuse et réussir et m'en sortir. Et c'est juste qu'il y a eu des moments où c'était trop dur et j'avais envie de dire « Stop, là, j'arrête, je fais une pause, j'en peux plus ».
Ouais. Et alors, cette chambre dans laquelle tu t'es enfermée ce jour-là, elle ressemblait à quoi ?
Elle était mais vraiment le cliché de la chambre d'ado. J'avais passé plusieurs nuits dans un épisode de quasi-maniaque à recouvrir mes murs, mais vraiment du sol au plafond, de posters, de photos, de trucs découpés dans les magazines, de phrases. J'avais fait un collage géant, mais c'était immense. C'était une fresque. C'était vraiment pas des trucs énormes. C'était plein de petits trucs collés les uns à côté.
Mais
des
tu autres. L'as pas fait au fur et à mesure, tu l'as fait en...
Je l'ai fait d'un coup. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelques posters, il y avait quelques trucs, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, j'ai vraiment envie d'avoir, comme dans les films, un décor très adolescent dans ma chambre. Parce que déjà, adolescente, j'étais fascinée par l'adolescence, vu que la mienne était nulle. Donc j'en voulais une meilleure. Et j'ai passé donc 3-4 nuits comme ça à recouvrir mes murs du sol au plafond. Et c'était trop stylé.
Et donc, il y avait quoi ?
Il y avait vraiment tout ce que je pouvais trouver dans les magazines de l'époque. Il y avait des posters de Marilyn Manson, de Korn, de System of a Down. Il y avait des dessins que je faisais avec des pentagrammes, des trucs ensanglantés. Il y avait des 666 partout. Il y avait des lettres qu'on s'était écrites avec mes potes ou des petits mots qu'on s'était envoyés qui étaient donc ajoutés à ça pour qu'il y ait quand même une preuve que j'avais une vie sociale. Il y avait des photos de nous, des photos de mes animaux de compagnie. J'ai essayé de faire une fresque de ma vie et de ce qu'il y avait dans mon cœur et dans ma tête à ce moment-là, et ça me ressemblait énormément. C'était un miroir de mon quotidien, que ce soit mon quotidien vécu ou mon quotidien mental. Et j'étais trop contente de ce que j'avais même mis des trucs en relief. J'avais accroché un chapelet en plein milieu que j'avais scotché pour qu'il soit à l'envers. Enfin, j'avais fait vraiment des trucs tellement clichés, mais j'étais trop contente de moi.
T'as une trace de ça en photo quelque part en arrière-plan?
J'ai deux photos prises à la webcam à l'arrache avec juste la lampe de mon bureau où on voit vaguement que derrière, il y a effectivement un peu de matière, mais j'ai pas...
Et elle est devenue quoi d'ailleurs cette fresque? Tu l'as détachée? Tu l'as décrochée un moment?
Ouais. Quand j'ai commencé à grandir... à devenir un peu plus mature, j'ai tout déchiré d'un coup, et après je me suis mise à dessiner et à écrire sur mes murs, donc c'était pas beaucoup mieux. Et je faisais en sorte que les gens qui passaient chez moi écrivent sur mes murs ou sur le montant de mon lit, le cadre de mon lit, qu'on a eu du mal à jeter avec ma mère parce que vraiment il était rempli de mots de mes potes, et à côté de moi, à côté de ma tête, il y avait l'initiale de tous les mecs qui étaient passés dans mon lit. Alors qu'il s'était rien passé, mais la plupart du temps c'est juste on se roulait des pelles et on dormait ensemble, mais pour moi c'était symbolique, et du coup dès qu'il y avait un mec qui dormait dans mon lit, je mettais son initiale pour faire genre regardez comment je suis trop une ouf.
Mais ouais, ça a dû être difficile à jeter, je comprends.
C'était,
ouais.
Mais même pour tous mes meubles en fait, j'avais cette manie de vouloir écrire et laisser des traces sur tout, donc à chaque fois qu'on jetait un meuble, on retrouvait des trucs partout, des paroles de chansons, des dessins, juste mon nom écrit. Fallait absolument que je m'inscrive partout. Et j'avais ce besoin d'appartenir, enfin de m'approprier les meubles, parce que c'était la première fois à cet appartement, c'était donc après sa séparation avec mon beau-père, c'était la première fois qu'on avait vraiment un endroit rien qu'à nous, pour de bon, depuis longtemps. Et je pense que j'ai eu ce besoin justement de décrire bien partout que c'était chez moi. C'est, au lieu de pisser dans les coins, mais ouais, j'ai écrit sur les meubles. C'est quand même un peu plus cool.
Alors tu parlais des posters de Korn qui tapissaient ta chambre. Je crois que tu n'as pas écouté que du métal. En préparant cette interview, je t'ai demandé ce qu'on pouvait trouver dans ton... T'écoutais quoi d'ailleurs à l'époque? Un Discman
Non, j'avais une chaîne avec... trois disques, on pouvait mettre trois disques.
Un plateau trois disques,
donc c'était le luxe. Et sinon, j'avais les premiers lecteurs MP3 en forme de clé USB où on pouvait mettre genre 20 chansons à peine. Et ça, vraiment, je l'ai détruit tellement je m'en suis servi. Mais Discman, non, j'en ai eu un au collège, mais c'était un truc d'occasion parce qu'on n'avait pas les moyens et ça sautait tout le temps, c'était insupportable.
L'enfer.
On pouvait pas marcher sans que voilà, c'était très chiant. Donc je m'en suis vite lassée et surtout j'avais pas les moyens non plus d'acheter des CD, donc la rotation elle était assez c'est pour ça que l'arrivée d'internet et pouvoir télécharger des MP3 ça m'a changé la vie.
Ouais, ça c'est arrivé parce que toi t'es née en quoi, en 87?
En 87, ouais. Du coup, c'est pour moi c'est arrivé alors j'ai eu internet tardivement chez moi, mais c'était quand j'avais 15 ans.
Ah ouais, OK.
Avec Wanadoo.
Et donc, à cette époque-là, on pouvait passer vraiment du coq à l'âne. Et donc, ce que tu faisais, hein, sans vergogne. Donc, t'écoutais par exemple Rammstein. On va en écouter un extrait. Mutter.
Die tränengreise Kinderschar. Ich zieh sie auf ein weißes Haar. Werf in die Luft die nasse.
Tu comprends les paroles ou pas?
Pas du tout. Je la connais en phonétique.
Le yaourt allemand, ouais, c'est...
Ah, mais toutes les chansons de Rammstein, je les connais en phonétique par cœur, y a pas de souci. Mais alors après, enfin, Mutter, je sais que ça parle d'une mère, mais ce qu'il en raconte...
Et donc, il n'était pas rare que tu enchaînes, après Mutter, un autre titre, à savoir, c'est quoi, Turn Me On,
ouais,
de Kevin Little. On est sur une autre vibe, là, quand même, clairement.
Ouais. Cela dit, j'ai pleuré sur les deux, hein.
Ouais, donc une playlist bien
éclectique. J'ai toujours été entre le rock metal, heavy metal et même des trucs plus hardcore et pop R&B. Ça m'a toujours plu. Le premier artiste que j'ai vraiment aimé toute seule, sans l'influence de mes parents, c'était Michael Jackson. Quand j'avais genre 4 ou 5 ans, je suis tombée amoureuse de la musique de Michael Jackson. Et du coup, je me suis construite là-dessus avec les Doors à côté et ça a continué toute ma vie. Et c'est pour ça que voilà, à cette époque-là, c'était dur d'assumer quand même d'écouter les deux parce qu'il fallait choisir un camp.
Ah mais totalement, ouais.
On avait tous des tribus, donc je me sentais quand même plus à l'aise dans la tribu des métalleux que dans la tribu des rappeurs et des fans de R&B. Mais aujourd'hui, je vis très bien cette dualité. Je peux passer de Iron Maiden à Rihanna sans aucun problème.
Ouais, aujourd'hui, c'est la norme, de toute façon.
Voilà, exactement. Voilà. Il y a vachement moins de complexes autour de ça.
Ouais.
Et puis même, on considère les meufs comme Rihanna comme des meufs badass et rock'n'roll, donc ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Ouais,
ça,
ouais.
Ça fait du bien.
Et alors, tes films cultes, tu étais cinéphile, ado ?
J'étais cinéphile, mais j'avais vraiment deux genres de prédilection. C'est-à-dire que j'ai été cinéphile par défaut, parce que, encore une fois, l'influence de mon père, qui m'emmenait au Champollion, au Reflet Médicis, voir des vieux films pendant lesquels il fallait absolument pas que je parle ni que je bouge. Et en sortant, il fallait, quand il me demandait ce que j'en avais pensé, il fallait que j'ai la bonne réponse, parce que sinon, on était dans la merde si j'avais pas compris un truc. Donc j'ai grandi avec beaucoup de vieux films. Je me suis fait une culture cinématographique très tôt. Grâce à ça, mais c'était pas mon choix en fait. Je peux pas dire ouais, j'ai regardé. Il se trouve que oui, j'ai regardé Le Septième Sceau de Bergman quand j'avais genre 3 ans. C'était pas ma décision, donc je peux pas trop m'approprier ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire mes propres choix cinématographiques, ça s'est très vite orienté vers deux trucs, les films d'horreur et les teen movies. Et c'est vraiment aujourd'hui encore les deux genres que dès qu'il y en a un qui sort, je ne peux pas l'ignorer. Je peux pas. Si on me propose un film d'arrêt d'essai hyper intéressant sur la guerre en Syrie et qu'à côté il y a un gros slasher qui sort, Je sais qu'intellectuellement, ce serait peut-être mieux que j'aille voir le film d'arrêt d'essai, mais je peux pas, il faut que j'aille voir le slasher.
T'arrives à savoir ce qui te plaît là-dedans ?
Je pense que, ça, alors pour les teen movies, c'est facile, parce que c'est effectivement des visions fantasmées de l'adolescence, et que j'ai cette fascination, et que souvent l'esthétique est hyper... Enfin, ils ont des looks hyper travaillés, des chambres hyper travaillées, tous les décors sont hyper travaillés, et c'est vraiment de l'adolescence théâtrale, et ça fait écho à tout ce qui m'a manqué à l'époque. Pour les films d'horreur, c'est plus nuancé que ça, c'est vraiment... déjà, la sensation de peur, c'est une émotion que j'aime bien. Et à côté de ça, je comprends parfaitement. J'essaierai jamais de convaincre quelqu'un de regarder un film d'horreur, alors que j'essaierai peut-être de le convaincre de regarder un teen movie. Mais je comprends qu'on vive mal la peur, et je l'imposerai jamais à personne. Mais moi, j'adore ça. Et il y a un truc hyper rassurant dans les films d'horreur, parce qu'une fois que le générique commence, c'est terminé. Le cauchemar est fini, on passe à autre chose, on se retrouve dans une réalité où tout va mieux. Et quand on est dans une époque comme la nôtre, où tout va mal dans le monde, et ben c'est hyper cathartique, je trouve, de passer 1h30, 2h devant un film horrible et de se dire « Ah, ça y est, c'est terminé !» Alors que le monde, ça ne s'arrête jamais. Ça continue tout le temps et c'est toujours horrible. Et en plus, les films d'horreur sont vraiment le reflet de la société dans laquelle ils évoluent et dans laquelle ils sortent. C'est-à-dire que pour chaque époque, on voit des modes émerger dans les films d'horreur qui sont vraiment le reflet de ce qui nous faisait peur et ce qui nous préoccupait à l'époque, comme à l'époque de la guerre froide, tous les épisodes de Twilight Zone, c'est que des trucs sur, enfin de la quatrième dimension, c'est que des trucs sur l'envahisseur, la conquête spatiale, les gens sont terrorisés à l'idée qu'il y ait une bombe qui arrive, et des doubles aussi, où on ne sait pas trop si on peut faire confiance à la personne qu'on connaît, enfin... Il y a plein de choses comme ça qui se reflètent vachement dans le cinéma d'horreur que j'adore, et je pense que c'est vraiment le genre qui est le plus viscéral, le plus cathartique, celui qui agit le plus sur notre moi profond et tous les trucs qu'on a au fond de nous. Et moi, j'ai toujours besoin de cette analyse et cette introspection. Je suis tout le temps un peu trop, beaucoup trop même, tout le temps dans mon nombril à essayer de comprendre comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi je réagis comme ça à ça. Et les films d'horreur, c'est un super bon outil pour apprendre à se connaître et pour savoir justement ce qui nous fait tiquer, parce qu'il y a des sous-genres de films d'horreur qui ne m'intéressent pas du tout, alors qu'il y en a d'autres, justement, les slashers, ce qu'on appelle les home invasions, où il y a quelqu'un qui est tout seul, ou une petite famille qui est toute seule chez elle, et quelqu'un qui est un intrus qui s'introduit chez eux et qui fout le bordel. Ça, c'est le genre de truc, ça me rend ouf! Mais ça me rend ouf! Comme les trucs surnaturels, où il y a des trucs de possession ou de fantômes, mais là, je deviens zinzin, mais parce que c'est des trucs qui me font peur dans la vraie vie, quoi. Et je pourrais en parler pendant des heures.
C'est quoi le film le plus terrifiant que t'as vu?
C'est difficile à dire parce que j'ai eu mes premiers traumatismes où vraiment ça m'a empêché de dormir pendant des années avec des films qu'aujourd'hui je regarde sans aucun problème. Le premier, c'était Chucky 2, où vraiment pendant 10 ans facile, ça m'a empêché de dormir. Je l'ai choisi par rapport à la jaquette dans un vidéoclub avec mon oncle qui m'avait dit « vas-y, prends-toi un film ». Toute ma vie, je lui ai fait payer ce choix. Parce qu'on était censé le regarder ensemble et il s'est endormi au bout de 2 minutes et il m'a laissé toute seule regarder Chucky 2. Donc, j'avais pas capté que c'était le 2 en prenant la jaquette. Je l'ai regardé toute seule dans un salon la nuit à 8 ans. Et tout le monde se disait, bah, ça chaud, va aller, ouais. Parce qu'elle a l'habitude de regarder des films d'horreur. Sauf qu'en fait, non, celui-là, c'était celui pour lequel j'étais pas prête. Et ça m'a traumatisée. Mais j'en dormais pas. Quand je devais aller pisser la nuit, j'arrivais pas à retourner dans mon lit. J'allais systématiquement dormir dans le lit de ma mère.
Ouais.
C'est horrible, horrible.
Et donc, dans tes films cultes d'ado, il y a, donc, tu m'as fait une petite liste où il y a des films qui, d'ailleurs, mélangent un peu teen movie et horreur. Là, j'ai sélectionné celui-là, tu vas le reconnaître.
La bande des quatre. Ce sont elles qui font la loi au lycée et tout le monde envie leur position. La chef, c'est Courtenay.
Allez, les filles, on dégage.
Une véritable diablesse en jupon, toujours flanquée de Marcy, son âme damnée.
On se connaît pas vraiment, vu l'ambiance discriminatoire qui règne au lycée.
Une petite ville bien tranquille. Et pourtant, il s'y passe des
choses. Ça, c'est Joe Breaker.
Ouais. Un film qui est très peu connu en France.
Ouais, c'est vrai, j'étais étonnée que tu me cites ça, mais parce que t'as l'air quand même bien geek, quoi. Donc...
Ouais. Mais je sais même plus comment je l'ai découvert. Je sais que je l'ai vu en VHS avec ma meilleure amie à l'époque, parce qu'on se faisait quasiment tous les week-ends des soirées pizza à glace et cassette vidéo, le beau vieux temps. Et ce film m'a vraiment, mais immédiatement, la première fois que je l'ai vu, je suis restée, mais je crois qu'on l'a remis On l'a fini, on l'a remis tellement on a été marqué par ce film, qui est donc un teen movie hyper noir, qui commence par la mort d'une des nanas. Qu'elles lui font, donc ses potes lui font une blague pour son anniversaire et elles lui mettent ce qu'on appelle en France une couille de mammouth. C'est un peu moins stylé qu'un
couille de mammouth, ça s'appelle
couille
français.
De mammouth.
Donc c'est les Jawbreaker, c'est le casseur, littéralement le casseur de mâchoire.
Voilà. Donc c'est ces énormes bonbons en forme de boule qu'il fallait lécher pendant des milliards de jours qu'on gardait. C'est dégueulasse, c'est vraiment le bonbon le moins hygiénique du monde. Et donc elle lui en fout un dans la bouche, elle la baïonne et elles font semblant de la kidnapper pour lui faire une blague pour son anniversaire. Sauf que le Jawbreaker va se loger dans sa gorge et elle s'étouffe. Et donc après, pendant tout le film, c'est comment elles vont réussir à cacher ce meurtre et à continuer leur vie de lycéenne populaire. Avec Rose McGowan dans le rôle de Courtney, la grande méchante, c'est extraordinaire, mais extraordinaire. Et c'est tellement, c'est hyper coloré, c'est hyper cartoon, il y a des transitions à la Scooby-Doo, avec des bruitages pas possibles, et ce film, je le connais par cœur en VF et en VO, et je l'aime tellement. Mais justement, comme tu disais, parce qu'il mélange teen movie et film d'horreur, il y a toujours un peu des deux... dans mes films préférés, c'est ça que j'aime le plus, quoi.
Tu m'avais cité The Faculty aussi.
Ah, The Faculty, alors vraiment, c'est encore au-dessus. C'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Je pense qu'on a dépassé les 100 fois. Hein. Facile.
Tu lisais ado ?
Ouais. J'ai toujours lu énormément, encore une fois, en partie à cause slash grâce à mon père, qui était obsédé par l'idée que je devienne une thésarde. Donc je suis arrivée au CP, je savais déjà lire et écrire, parce qu'il me faisait faire des dictées sur des poèmes de Baudelaire quand j'avais 4 ans.
Ok.
Non mais il voulait faire de moi un génie, hein. C'est raté malheureusement, mais il voulait que j'ai 53 doctorats et que je parle 12 langues, enfin bref. Donc oui, je lisais beaucoup et c'était, comme beaucoup de gens, mon moyen de m'échapper de la réalité. Donc j'étais une fervente consommatrice de bouquins à la bibliothèque. Heureusement qu'il y avait des bibliothèques, parce que encore une fois, faute de moyens, les livres ça coûte cher et on peut pas en acheter 50 000. Et à chaque fois, j'empruntais toujours le maximum de livres possible à chaque passage. Donc je repartais avec des sacs immenses, pleins de BD et de romans. Et ado, je lisais donc beaucoup de romans d'horreur, évidemment. Mais c'est là aussi que j'ai lu tous les classiques. Donc j'ai lu Hugo, j'ai lu Zola, j'ai lu des trucs aussi plus cool, genre Tom Sawyer, quand même plus adapté à mon âge à l'époque. Et je suis trop contente d'avoir fait ça à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus la patience pour ce genre de trucs, parce que y a trop d'écrans, il y a trop de raisons de... Donc je lis toujours beaucoup, mais des trucs qui sont faciles à lire. Et je me souviens, quand j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, mais... Oh là là, je passais des heures à rêver, moi aussi, de m'échapper de mon île, qui était donc la maison dans laquelle je vivais avec mon beau-père que je détestais. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de liberté, et ça me faisait rêver, j'adorais. Heureusement que j'avais ça, parce que putain, j'avais pas de potes, j'avais pas une vie super. Du coup, c'est tout ce que j'avais à foutre de mes journées le week-end, quoi. J'ai passé des heures à lire. C'était un peu mi-triste, mi-cool.
Et est-ce que t'écrivais déjà ? T'avais un journal intime, par exemple ?
Oui, j'ai eu mon premier journal intime quand j'avais 6 ans. Je les ai tous encore. Donc, j'avais un journal intime dans lequel j'insultais copieusement mon beau-père. Et dans lequel je racontais que j'étais la fille du diable, puisque j'ai eu une période sataniste aussi à l'époque. Je cherchais une religion, j'en ai essayé plusieurs, parce qu'en fait je cherchais une figure paternelle stable, et il n'y a pas plus absolue comme figure paternelle qu'un dieu. Donc j'ai trouvé un peu de réconfort là-dedans pendant un moment. Et j'écrivais des histoires dans lesquelles je défonçais tout le monde globalement. Je devenais loup-garou. Ça, beaucoup, beaucoup fantasmé sur le fait d'être le loup-garou. Loup-garou et sorcière et vampire, je voulais être les trois en même temps. j'écrivais des paroles de chansons, j'écrivais ce qui me passait par la tête. Parfois, je mettais la radio et j'écrivais ce que j'entendais à la radio, juste pour le plaisir de continuer à écrire sur du papier alors que j'avais rien à raconter, mais je voulais écrire des trucs. Donc j'ai des carnets comme ça qui sont remplis de phrases qui n'ont aucun sens, avec des pubs Leclerc, des paroles de chansons derrière, et puis un animateur qui fait une blague de cul à la suite. Et j'ai aucune idée d'où ça vient, mais voilà, c'était comme ça que je m'occupais à l'époque, quoi.
Ok, ouais, t'écrivais déjà de manière compulsive, ouais. On va dire. Et ton look, on en parle ?
Mon look. Au collège, j'ai essayé de coller à l'esthétique Skyrock, parce que c'était ça qui était le plus à la mode à l'époque. Et puis est arrivé WeFM et Avril Lavigne, quand j'avais 14 ans, et Linkin Park. Donc ils sont sortis à peu près à cette période-là, et d'un coup, c'était en train de devenir cool, le rock, et il y a vraiment une tribu qui s'est montée à ce moment-là, et je me suis dit, en fait, je vais arrêter de porter des survêtes et des Cortez, parce que c'est pas du tout mon style, et je vais plutôt aller par là. Donc je me suis mise à porter des baggies, et des cravates sur des débardeurs, et des ceintures à clous, et ce genre de trucs, et des pompes de skate. Et mes premières pompes de skate, je les ai trouvées dans un vide-grenier à Marseille en vacances, l'été de mes 15 ans. Donc elles étaient déjà défoncées, elles étaient toutes pourries, je sais pas à qui elles avaient appartenu, mais voilà, du coup ça me donnait encore plus de crédibilité, parce que je suis arrivée au lycée avec mes pompes déjà faites, au lieu d'arriver avec mes pompes toutes neuves, où là clairement j'aurais été grillée. Et petit à petit je suis passée de skateuse à métalleuse à complètement goth, où là donc, j'ai eu ma paire de New Rock dont j'ai pratiquement dormi avec la première nuit tellement j'étais trop heureuse de les avoir. Je les ai posées sur mon bureau au pied de mon lit et je les regardais dans le noir. Et je mettais des corsets, des jupes longues, j'avais des bracelets à pic, mais de 10 cm, qui étaient vraiment clairement des armes blanches, des t-shirts de groupe, évidemment, les fameux pantalons baggy noirs à lanières, les pantalons méduses là, que tout le monde avait en noir ou en rouge, donc on était tous habillés pareil, et du coup on s'est changé nos fringues et c'était trop bien, les mitaines en résille aussi, ça j'ai eu, les grosses bagouses avec des crânes et des fausses pierres. Ah, j'ai vraiment joué le truc à fond.
À total, ouais.
Mais c'était la première fois que je me trouvais une vraie identité dans laquelle je me sentais bien. Et ça a été libérateur. Et c'est là que j'ai trouvé ma première vraie bande de potes sur Internet, sur une salle de chat MSN qui s'appelait Punk Rock Metal and the Death. Et on a passé tout un été à se parler. Et en fait, on était les mêmes personnes à se parler tout le temps. Du coup, un jour, on s'est dit, on va se rencontrer, vu qu'on est tous parisiens ou banlieusards, allons-y, faisons un meet-up. Et donc, un 27 août 2003, je m'en souviendrai toute ma vie, on s'est retrouvés devant l'Opéra Bastille, et donc on était une bande de genre 30 à 40 métalleux, skateurs, punk, goth, qui faisaient les gogoles devant l'Opéra Bastille, et on a fait ça tous les samedis pendant 2 ans.
Juste à vous retrouver comme ça, ouais, devant l'Opéra Bastille.
Et on traînait, et après, au bout d'un moment, on a fini par aller à un bar rock qui s'appelle Les Furieux, rue de la Roquette, qui était donc le QG de tous les métalleux de l'époque, à boire des Monaco, parce que pour la plupart, on était mineurs, donc c'était le seul truc qu'on arrivait à avoir. Et à faire les cons dans la rue, à traîner dans les deux seules boutiques qu'il y avait, c'était le Goéland et je sais plus quoi, rue Keller, où il y avait toutes les fringues, tous les t-shirts de groupe, les fringues goth, skater, machin, tout ça, alors qu'on n'avait pas de thunes, mais bon, on y allait quand même histoire de faire quelque chose. Et voilà, ça a été ma vie, et aujourd'hui, les plus vieux amis que j'ai dans ma vie datent de cette période-là. Et d'ailleurs, je suis tatouée et tous mes tatouages ont été faits par un de mes potes que j'ai rencontré à cette époque-là.
Et alors, sans transition, t'as écrit sur les règles. Ouais. Comment t'as vécu les tiennes, toi ?
Alors, je les ai bien vécues parce que je les ai eues une semaine avant mes 15 ans. Donc, j'avais eu largement le temps de me renseigner, de m'habituer à ce que c'était, de voir toutes mes potes passer par là. Il n'y a pas eu le moment flippant que j'ai pu voir chez certaines copines qui l'ont eu fin primaire, de « ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne comprends pas. Donc, non, moi, j'ai vraiment fait une puberté super tardive. Et surtout, j'ai été élevée par une mère et même un père avec qui j'avais aucun tabou. Donc, j'avais déjà posé toutes les questions que j'avais envie de poser. Et ma mère était là le jour où j'ai eu mes règles. C'était à la plage. Je suis rentrée de la plage et j'ai vu un truc dans mon maillot de bain qui ressemblait pas à ce qu'il y avait d'habitude. Et je lui ai expliqué. Et après, j'ai commencé à ressentir les premières douleurs dans les reins. C'était la première fois que je ressentais cette douleur de ma vie. Et là, effectivement, pour quelqu'un qui connaît ça, quand quelqu'un commence à dire « j'ai mal là, dans le bas du dos », bah, on sait très bien ce que c'est. Donc ma mère m'a dit « ok, donc c'est bon, t'as tes règles ». Et elle m'a emmenée me promener. On s'est promené dans les hauteurs de Marseille où on était en vacances. Pour faire descendre, pour que ça puisse couler, parce que c'était... Voilà. Et qu'elle puisse aussi me parler de ce que ça allait...
Donc en mode free bleeding, quoi.
Voilà. Et on a, sur le chemin, on a acheté mon premier paquet de serviettes, et elle m'a montré comment faire, comment les mettre, et elle m'a acheté, je crois, des fringues, un truc à manger sympa. Enfin, ça a été vraiment une journée mère et fille à la cool. Du coup, j'ai mal vécu après parce que j'avais super mal, mais sur le moment, enfin, j'étais limite soulagée parce que putain, enfin quoi, j'étais la dernière à les avoir. Ouais. Ça y est, j'étais enfin une femme. Donc ça, je suis revenue de cette affirmation depuis. Mais à l'époque, je pensais encore que c'était comme ça que ça se jouait, quoi.
Et quel rapport t'entretenais avec ton corps d'une manière générale ?
Je le détestais.
Ouais.
Encore aujourd'hui, là, ça va mieux, hein, mais j'ai fait énormément de progrès. Mais pendant pratiquement toute ma vie, j'ai haï mon corps, mais d'une force, mais vraiment. Une haine viscérale de... Pourtant, j'étais fascinée et très, très narcissique et très nombriliste, donc j'étais toujours en train de me regarder, me prendre en photo, me filmer pour essayer de comprendre à quoi je ressemblais. Mm-hmm. Donc vraiment, j'ai des à partir du moment où j'ai eu mon premier appareil numérique, j'ai un disque dur qui est plein de photos où c'est vraiment juste moi qui prends des photos d'affilée de ma gueule qui n'ont aucun intérêt. Parce que j'essayais de voir à quoi je ressemblais, puis j'essayais de me trouver belle aussi, je n'y arrivais pas. Et du coup, bah en fait, comme j'ai passé tout le collège à me faire harceler à l'école et à me faire traiter de moche, à avoir des gens qui m'expliquaient par A plus B que mon existence n'avait aucun intérêt et que j'étais une plaie pour l'humanité, on m'a vraiment mis l'étiquette meuf moche, laide, indésirable pendant toutes mes années collège, alors que c'est les années où on se forme, on commence à séduire, on commence à se questionner par rapport à sa sexualité, tout ça. Donc, j'ai grandi en étant convaincue que j'étais horrible et laide et détestable et c'est en rencontrant donc mes potes de Punk Rock Metal and the Death que j'ai commencé à avoir mes premiers mecs et mes premiers crushs et les mecs qui commençaient à s'intéresser à moi et je me suis dit en fait peut-être que je suis pas dégueu.
Mais donc ça c'était vers quel âge?
Ça c'était à 15 ans ouais. Que ça a commencé à changer, mais à 15 ans j'ai pris conscience que je pouvais plaire, mais par contre je me plaisais toujours pas. Ça c'était vraiment impossible. J'ai encore des moments aujourd'hui où j'ai des relents de ça et où je vois mon corps et je le hais. Et c'est dur parce que je mérite pas d'être haï et mon corps mérite pas d'être haï. Il fonctionne bien, il est cool, il me rend bien service. En vrai, il est chouette. Objectivement, je le trouve cool. Et quand je me mets à le détester comme ça, ça me fait vraiment mal au cœur pour moi. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir de l'empathie envers moi-même. Mais pendant des années, je méritais cette haine et il fallait que donc j'ai rempli des pages et des pages et des pages de journal intime où j'explique à quel point je suis dégueulasse, je faisais la liste de tous les trucs qui étaient moches chez moi, je complexais même sur mes cils, j'ai réussi à trouver un défaut à mes cils parce qu'ils vont trop vers le bas. Ça n'a aucun sens. Donc vraiment tout ce que je pouvais détester chez moi, je le détestais et ça a été hyper dur, hyper dur.
Et je crois savoir que tu es hétérosexuelle, oui. Donc tes premières relations, le fait qu'un garçon pose un regard sur toi, est-ce que ça t'a aidé ?
Ça a été compliqué d'y arriver. J'ai perdu ma virginité à 20 ans, ce qui était très rare pour une Parisienne hétérosexuelle de mon âge. J'étais clairement la dernière de tout mon entourage à perdre sa virginité. Parce que j'ai aucun regret, hein. Mais j'ai pas réussi avant, parce que j'ai eu plein de mecs, j'ai eu plein de petits copains, on a fait des trucs, en général c'était plutôt moi qui faisais des trucs et encore je me mouillais pas trop, parce que l'idée qu'un homme puisse me voir nu, déjà l'idée d'être en couple avec un homme me terrifiait, parce que j'avais peur des hommes, parce que j'avais eu un père destructeur, j'avais eu un beau-père destructeur, j'avais eu des profs destructeurs, je me suis dit les hommes c'est de la merde, très tôt. J'étais déjà dégoûtée. D'ailleurs, j'ai essayé de me convaincre que j'étais lesbienne ou au moins bisexuelle pendant longtemps parce que je refusais l'idée de devoir être hétéro et donc de me farcir des hommes toute ma vie. Ça me faisait chier parce que j'aimais pas les hommes, quoi. Et bon, il se trouve que on peut pas la sexualité, ça ne se choisit pas. Je suis
nobody's perfect.
Exactement. Je suis fondamentalement hétéro, donc j'étais obligée de composer avec ça. Et l'idée qu'un homme donc puisse me toucher. Et me voir nue, donc à mon plus vulnérable, mon point le plus vulnérable, c'était mais impensable, et je n'y arrivais pas. J'ai eu un blocage terrible pendant des années. On m'a traité de coincée, de frigide, d'allumeuse pendant longtemps, parce que sur le principe, j'étais toujours chaude, il n'y avait pas de souci, on pouvait se rouler des pelles, on pouvait se frotter l'un à l'autre, j'étais excitée, j'avais une libido, mais dès qu'il fallait franchir le cap de se dénuder, je ne pouvais pas, j'y arrivais pas. Donc on pouvait me ploter les seins, mais il fallait s'arrêter là, quoi. Et à 20 ans, j'ai rencontré un mec qui m'a retourné le cerveau. Où vraiment, en 5 jours, on s'est mis ensemble. Et 5 jours plus tard, je perdais ma virginité avec lui parce que c'était une évidence. Et ça s'est trop bien passé. Enfin, le rapport était nul parce que c'était une première fois. Et que vraiment, je savais pas ce que je faisais, je savais pas ce qui m'arrivait. Mais le mec était génial et il a été extraordinaire pendant toute notre relation. Et j'ai eu énormément de chance là-dessus. Parce que maintenant, quand je parle à mes copines qui racontent leur première fois, dans 80% des cas, c'est... Soit elles l'ont fait parce qu'elles se sentaient obligées, soit parce qu'il fallait le faire. Et c'est jamais des très bons souvenirs. Et du coup, je me suis évité ça avec mes blocages. Je pense que je me suis protégée d'une certaine manière. Et quand je repense à tous les mecs avec qui j'aurais pu coucher, mais avec qui je n'ai pas couché, je me dis putain, heureusement que j'ai attendu. Parce que vraiment, ils méritaient pas de me toucher. Mais ouais, ça a été dur. Ça a été hyper dur à vivre. Parce que j'avais une libido, donc j'avais envie, mais... Les hommes et mon corps. Ah, compliqué.
Et comment tu te voyais à 30 ans ?
Putain, je me voyais... Je me voyais riche, déjà.
Ouais.
Je me voyais avec une carrière incroyable, vraiment working girl. Limite un cliché de Le Diable s'habille en Prada ou ce genre de truc. Travailler dans un magazine ou être auteur à succès.
Qui t'avait mis ça dans la tête ? Tu lisais la presse féminine ou...
Ouais, je lisais la presse féminine. Même si c'était pas très compatible avec mon style de vie, j'avais quand même besoin d'un référentiel. C'était un référentiel de merde à l'époque d'ailleurs, hein, parce que putain, il a fallu en déconstruire des trucs derrière. Mais ouais, je me voyais vraiment. J'avais une vision hyper caricaturale de la féminité adulte. Et donc, pour moi, une femme adulte accomplie, c'était une femme qui était féminine, qui avait une carrière féminine. Donc, je me voyais porter des robes et des jupes et des talons, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Être maquillée, super bien coiffée, toujours parfaite, toujours bien épilée comme il fallait. Une femme de magazine, en fait. Et c'est, en même temps, je me disais, je pensais à ça alors que j'étais donc avec mes New Rock et mes bracelets à pic, et je me disais, mais j'ai pas envie d'abandonner ça pour autant. Donc, il y avait une partie de moi qui disait peut-être que je serais une daronne gothique. Mais bon, je me voyais vraiment plus accomplie que ce qu'on est réellement à 20 ans, parce que, à 30 ans, parce qu'en vrai, la vingtaine, c'est une deuxième adolescence, donc on croit qu'on sait tout, et en fait, on sait rien. Et vers 30 ans, c'est là qu'on commence enfin à se poser, à poser les bases et à se dire « Ah, tout ce que je croyais, c'était de la merde. Faut tout recommencer. » Mais j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que j'ai passé le cap de la trentaine, d'ailleurs. Hein. Putain, quel soulagement. Donc je suis absolument pas ce que j'avais vu à l'époque, mais en fait, tant mieux, parce que c'était pas moi. C'était juste un fantasme. Je croyais qu'il fallait être ça pour réussir, quoi.
Et alors, t'as déjà écrit à l'ado que t'étais dans le livre qu'on a évoqué plus tôt, qui s'appelle donc Lettre.
Lettre à l'ado que j'ai été, ouais.
Voilà. Qu'est-ce que tu lui as écrit ? Est-ce que tu lui... Bon, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans.
C'était il y a 2 ans.
Tu lui écrirais la même chose aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'était ?
Ouais, je pense que je lui écrirais la même chose. C'est vraiment faire preuve d'empathie envers moi-même. Et c'est dur, mais ça va aller. Et non, c'est pas juste. Et non, j'aurai jamais de vraie vengeance envers ceux qui m'ont fait du mal et j'arriverai jamais à résoudre ces trucs-là, mais ça, voilà, ça fait 3 ans et demi maintenant que je travaille dessus, entre autres avec ma psy, sur le fait de lâcher prise sur la vengeance et la colère, parce que la colère, c'est destructeur et ça me ronge depuis... Ça fait 15 ans que je vis avec la colère au bide et c'est insupportable, en fait. Et là, donc, je suis enceinte, je vais bientôt être maman et je ne veux pas que mon enfant marine dans la colère dans mon ventre parce que c'est là le siège de la rage. Et surtout, je veux pas l'élever avec ça en tête, donc j'essaye de me débarrasser de ces couches-là. Donc ça va beaucoup mieux depuis à peu près un an et demi, je dirais. J'ai commencé à vraiment faire un travail assez conséquent sur ma colère. Et je pense que j'insisterai encore plus là-dessus, parce que c'est le truc qui m'a freiné dans ma vie. C'est le truc qui m'a fait du mal.
Le harcèlement, tu veux dire ?
La colère suite au harcèlement.
La colère t'a fait du mal.
Ouais. Parce que elle est légitime, cette colère, et en même temps, elle m'a protégée, elle m'a aidée pendant un moment, elle m'a propulsée, c'est grâce à ça que j'ai survécu, je pense, mais j'aurais dû l'abandonner bien plus tôt, et je l'ai gardée beaucoup trop longtemps, et encore aujourd'hui, alors que j'en ai plus besoin depuis longtemps de cette colère. J'ai plus besoin de cette forteresse que j'ai bâtie autour de moi, et ce côté « ouais, je suis badass et je vais te mordre si tu me regardes de travers », s'en fout, j'ai plus besoin de ça. Donc je pense que ouais, j'insisterai encore plus là-dessus. Empathie et stop la colère, ça sert à rien.
Merci beaucoup, Jack Parker, d'avoir insufflé un peu de magie dans ce podcast. On rappelle que ton nouveau livre, Witch Please, est disponible aux éditions Pygmalion. Il contient d'ailleurs des illustrations signées Digli, qu'on salue parce qu'on l'aime beaucoup aussi. Et c'est un cadeau de Noël assez idéal pour mettre un peu de paganisme au pied du sapin.
En plus, c'est un super bel objet qui brille, donc ça fera
c'est
toujours
vrai qu'il
très,
est très beau. Merci, Taous.
Merci à vous.
Chic Magazine.
Ce podcast de Chic Magazine a été réalisé par Marion Emery pour Nova Spot.